Il y a un message fondamental qui traverse toute la Bible. La Bible, c'est aussi appelé la parole de Dieu, ou aussi les Écritures, les Saintes Écritures. Il y a un caractère distinctif des Saintes Écritures, c'est que elles affirment des choses. Les Écritures affirment. Elles ne supposent pas, ou elles n'interprètent pas, ou elles ne proposent pas une pensée qui sera valable pour les uns, mais moins pour les autres. Non, la parole de Dieu indique des choses de manière très claire et très directe. On trouve dans l'Écriture des passages comme par exemple « C'est une chose certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » On trouvera aussi un autre passage, par exemple, que lorsque nous étions sans force, au temps convenable, Jésus est mort pour des impies. Des impies, ce sont des hommes, des femmes, qui sont éloignés de Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Eh bien, Jésus, au temps convenable, est mort pour des impies, alors qu'ils étaient sans force. Il y a encore un autre passage qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens. C'est Paul qui dit ça. Il dit, « Christ est mort, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité, selon les Écritures. Et il a été vu de Céphas. » C'était l'apôtre Pierre. « Puis des 12 disciples. Puis même de 500 frères à la fois, dont certains, à la date où il écrivait ces choses, étaient encore en vie. » La parole de Dieu affirme des choses. La parole de Dieu dit les choses d'une manière directe. C'est une chose certaine et digne de toute acceptation. Il y a un autre signe distinctif qu'on trouve dans les Écritures, c'est que ce que les Écritures disent, ces choses-là doivent s'accomplir. Déjà au temps de Noé, Dieu avait dit à Noé, « Noé, construis-toi une arche, un bateau, parce qu'il va y avoir un déluge. » Le déluge va venir, c'est le jugement de Dieu contre une génération qui était méchante. Noé a cru Dieu. Noé a construit son bateau. Il a attendu 100 ans. Au bout de 100 ans, le déluge, il est venu. Ce que Dieu avait dit s'est accompli. Le déluge est venu. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Déjà 800 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe, le prophète, avait pu écrire, conduit par l'Esprit-Saint, il avait pu écrire concernant Christ et le fait qu'il allait mourir pour les hommes, il disait certainement, « Lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. » On trouve ça ici, dans Ésaïe 53. « Lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. » Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsque Jésus était sur la terre et que les hommes sont venus pour le prendre, pour le juger et pour le crucifier, Pierre, le disciple, a voulu défendre son maître. Il a pris son épée. Et Jésus lui a dit, « Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne sais-tu pas que si je demandais à Dieu maintenant, il me donnerait, il me fournirait 12 légions d'anges? Mais comment seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi? » Christ savait qu'il devait aller à la croix. C'était consigné dans les Écritures. Les choses devaient se passer parce que les Écritures l'avaient dit ainsi. Christ, comme homme sur cette terre, s'est soumis à l'autorité divine des Écritures. Et les hommes, les femmes, toi et moi, nous devons aussi nous soumettre à l'autorité divine des Écritures. Ce que la parole de Dieu dit, cela va s'accomplir. Dieu aura toujours le dernier mot. Les Écritures vont s'accomplir, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. On trouve beaucoup de choses dans les Écritures par rapport au fait, par rapport à l'homme. L'homme est un des thèmes, l'homme et son histoire est un des thèmes centrales, on peut dire, de la parole de Dieu. Et Dieu a beaucoup de choses à dire au sujet de l'homme. Déjà, au temps que Jésus était sur cette terre, il disait aux hommes qui étaient autour de lui, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger. » Dieu connaît toutes choses. Jésus connaît nos cœurs, nos pensées. Il connaissait, d'ailleurs dans les Écritures, on trouve cette chose, que Jésus connaissant leurs pensées. Dans un autre passage, dans beaucoup plus dans l'Ancien Temps, lorsque Amos le prophète écrivait, il disait « Ainsi dit l'Éternel, je connais vos grandes transgressions et vos grands péchés, vos nombreuses transgressions et vos grands péchés. » Et puis dans les Romains, à la fin de la parole de Dieu, l'apôtre Paul disait, on peut lire ce passage aussi, c'est dans Romains au chapitre 2, au chapitre 3, au verset 11. Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue, etc. Dieu a une pensée très claire sur l'état de l'homme. L'homme est un pécheur. Est-ce que tu te reconnais comme un pécheur? Est-ce que tu es d'accord avec Dieu sur l'état dans lequel tu es? Sur ce que tu as fait dans ta vie? Dieu nous dit très clairement que nous sommes des pécheurs. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est une chose certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Si tu es un pécheur, sache aussi qu'il y a un salut. Dieu veut sauver les pécheurs. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés comme pécheurs? C'est que Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas voir le mal. Il ne tolère pas le péché. Il doit juger le péché. Et il va juger le péché. Le salaire du péché, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est la mort. C'est la séparation de Dieu. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est la mort spirituelle aussi. La mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu, qui est la source de la vie, de la lumière, de la joie, qui est la source de l'amour. La mort, c'est les ténèbres, c'est les grincements de dents, c'est les remords, c'est la haine, c'est l'absence de Dieu. C'est l'étang de feu et de soufre qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Mais Dieu, il veut nous sauver de cette seconde mort. Il veut nous sauver de cette mort qui est le salaire du péché. Et pour ça, il a eu un plan en rédemption. Dieu a eu un plan en création, c'est le Créateur. Dieu a créé toutes choses, le ciel, la terre, les hommes, toutes choses ont été créées par Dieu. Mais Dieu a eu un plan en rédemption. Il voulait sauver les hommes. Et pour pouvoir un peu expliquer ce plan en rédemption, il faut déjà un petit peu savoir ce que Dieu nous dit par rapport à lui-même. Dans les Écritures, on trouve une révélation par rapport à qui est Dieu. Dieu est un. Il y a un Dieu qui est composé de trois personnes distinctes, en parfaite harmonie les unes avec les autres. Dieu est amour et l'amour se développe au sein de la divinité et se manifeste au sein de la divinité entre les personnes de la divinité. Dieu le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. Et tout cela dans la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu, lorsqu'il s'est agi de sauver sa créature, de sauver les hommes qui s'étaient éloignés de lui, de sauver les hommes qui devaient être jugés et qui devaient être séparé de lui pour toujours, Dieu a trouvé une solution à ce problème de son côté. Celui qui était son Fils unique et bien-aimé de toute éternité auprès de lui, l'objet de son amour et de son affection la plus profonde, celui-là, Dieu a décidé, Dieu a mis en place ce plan que celui-là allait porter les iniquités des hommes. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est entré dans la création. Il est entré d'une manière tout à fait extraordinaire. Il est entré dans une étable. Il est entré comme toi et moi nous entrons dans le monde, par la naissance. Mais il n'est pas né de n'importe qui. Il est né d'une femme et d'une femme vierge. conçu par la puissance du Saint-Esprit en son sein. C'est le récit de Noël. C'est le fait que Dieu entre dans sa création. Le Sauveur est né dans le monde et il est né dans une étable. Pourquoi est-ce qu'il est né dans une étable? Il est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Est-ce possible que le Créateur entre dans la création et il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie? Cette chose-là indiquait d'avance ce qui a été la part de Christ depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa carrière. C'est que l'homme allait rejeter Christ. L'homme allait rejeter celui qui était son Créateur. Et alors que Christ, dans toute sa vie, n'a fait que ce qui était bien, allant de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts, donnant à manger aux foules qui avaient faim, répondant aux besoins de ceux qui étaient là, pleurant avec ceux qui pleuraient et se réjouissant avec ceux qui se réjouissaient. Alors que Christ a reçu l'approbation de Dieu le Père lui-même, qui a ouvert les cieux sur lui en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » Au moment où l'homme est devant la décision, est placé devant le choix par Ponce Pilate, le gouverneur Ponce Pilate, placé devant le choix de choisir entre libérer le prisonnier Barabbas ou libérer le prisonnier Jésus-Christ. La foule composée de grands et de petits, composée de juifs et de romains, composée de bons et de mauvais, de riches et de pauvres. Cette foule-là, d'un seul cœur, demande qu'on libère Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. La foule a préféré libérer celui qui était à l'image même de ce qu'elle était, plutôt que de libérer celui dont la lumière mettait en relief la méchanceté du cœur humain. Et alors, s'est passée la chose la plus étonnante qu'on puisse imaginer. C'est que l'homme rejetant Christ, c'est que l'homme le crucifiant sur une croix, le mettant entre deux malfaiteurs comme le plus coupable des trois, à ce moment-là, alors que Dieu aurait dû juger l'homme, Christ, s'adressant à son Père, lui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et le jugement de Dieu, au lieu de s'abattre sur les hommes, ce jugement-là s'est abattu sur Christ lui-même. Qui aurait pu penser ça? Dieu a abandonné son Fils et l'a jugé à notre place, à ta place, à ma place. Christ était rejeté des hommes, l'objet du dégoût des hommes. Et Dieu lui-même a abandonné Christ dans cette situation, de sorte que Christ a été le premier sur cette terre qui n'ait jamais été abandonné par tous, y compris par Dieu. Et alors, on lit dans les Écritures que depuis la sixième heure, alors que Christ pendait sur la croix, jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Dieu refusait même sa lumière pour qu'elle ne brillât pas même sur Christ. Et pendant ces trois heures sombres, Dieu a jugé Jésus à notre place. Et à la fin de ces trois heures, vers la neuvième heure, Jésus s'est écrié et a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'a pas répondu à cette question à ce moment-là. Christ est mort. Il a baissé la tête, il a rendu l'esprit. Il est entré dans la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu qui est juste. Et sa justice ne pouvait pas laisser Christ dans la mort. Christ n'avait pas commis le péché. Il n'avait pas connu le péché. Le péché n'avait pas été trouvé en lui. Il avait fait ce qui était bien du début à la fin de sa carrière. De telle sorte que Dieu ne pouvait pas être juste en laissant Christ dans la mort. Et 1000 ans avant que ces choses se passent. Par la voix prophétique dans un psaume, on trouve David qui dit « Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu ne laisseras pas mon âme en Sheol. » David a vu la corruption. David n'a pas été ressuscité, mais Christ. David parlait pour Christ. Christ n'a pas vu la corruption. Il n'était pas possible que celui qui était saint depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière ne voit la corruption. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Dieu a été juste en ressuscitant Christ. Et Dieu est juste aussi en te justifiant toi qui crois, si tu crois au Fils unique de Dieu, si tu crois au fait que Jésus est mort à ta place sur la croix du calvaire. Dieu ne punit jamais deux fois le péché. Dieu punit une seule fois le péché. Il l'a puni à la croix sur Christ. Et si tu crois ces choses, alors Dieu ne punira pas tes péchés une deuxième fois. Tu es justifié. C'est une chose merveilleuse. Crois ces choses. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. C'est une chose certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Crois ces choses. Et tu seras sauvé. Dieu te justifiera. Tu vas sentir dans ton cœur, Dieu va opérer dans ton cœur un changement dans ton fort intérieur. Et tu vas commencer à aimer. Tu vas aimer Dieu le Père qui t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Tu vas aimer Christ qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie pour toi. Comme l'apôtre Paul qui au début pouvait persécuter les chrétiens, qui les détestait lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il est venu à Christ, il a pu dire « Le Christ Jésus m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » C'est la nouvelle naissance. C'est cette chose que Dieu opère par la puissance du Saint-Esprit dans un cœur qui croit en Christ, qui croit en Jésus, qui confesse ses péchés, qui accepte ce que Dieu dit par rapport à lui. Parce que nous sommes des pécheurs, en effet. Mais si tu acceptes, alors, Dieu te sauve entièrement, il te justifie entièrement. C'est une chose merveilleuse. Mais alors, si tu ne crois pas, sache que tes péchés, devront aussi être jugés. Dieu jugera tes péchés, et s'il ne les a pas jugés sur Christ, alors il les jugera sur toi, et tu n'échapperas pas. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Et c'est une chose terrible, nous dit la parole, de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu peux penser beaucoup de choses dans ta tête. Tu peux penser qu'il y a peut-être une réincarnation. Tu peux penser qu'à la fin, quand on meurt, il n'y a plus rien. C'est terminé. Tu peux penser que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, qu'il est peut-être très lointain, qu'il ne s'intéresse pas à nous. Toutes ces choses, tu peux les penser, tu peux les croire. Elles n'ont aucune base, elles n'ont aucun fondement. Tandis que ce que l'Écriture dit, c'est l'Écriture qui dit les choses. N'oublie pas ce que Jésus disait. Pierre, comment seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi? Les Écritures doivent s'accomplir. Ce sont des choses qui sont certaines. Digne de toute acceptation. Alors, crois ces choses. Mets ta confiance dans ces choses-là plutôt que dans toutes les idées que tu peux avoir dans ta tête, que tu as reçues de gauche, de droite, de l'un, de l'autre. Ne remets pas à demain le choix de te tourner vers Christ. Demain sera trop tard. Demain ne t'appartient pas. Jésus a dit, en parlant d'une parabole, dans une parabole, il parlait d'un homme qui était riche, pour lequel tout allait bien. Il était très fier, très content de sa situation. Et il disait, je vais faire ça, je vais faire ci. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Cette nuit ton âme peut être redemandée. Et alors ? Ce sera trop tard pour croire. C'est aujourd'hui qu'il faut que c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut venir à Christ. C'est aujourd'hui qu'il faut saisir ces choses par la foi, être sauvé par la foi. sauvé en croyant ces choses. Demain ne t'appartient pas, c'est une première chose. C'est que tu peux mourir cette nuit. Il y a une deuxième chose, c'est que demain, le jugement peut venir. Au temps de Noé, Dieu avait dit, le jugement d'eau va venir, le déluge va venir. Au bout de 100 ans, le déluge est venu. Les hommes ont raillé, les hommes ont rigolé de Noé. Ils ont dit, mais avec ton bateau, c'est des fables. Ton déluge, c'est des fables. Mais le déluge, il est venu. Et les gens ont cru. Ils ne croyaient plus que c'était des fables à ce moment-là. Mais c'était trop tard. L'arche de Noé flottait sur les eaux. Mais Dieu avait fermé la porte. Plus personne ne pouvait entrer dans cette arche. Dieu lui-même avait fermé la porte. Et seulement ceux qui ont cru, seulement ceux qui avaient cru, ont pu être sauvés. Le jugement d'eau s'est passé au temps de Noé. Bientôt, les Écritures le disent, va venir le jugement de feu. Le jugement de feu va venir. Les Écritures disent que le jugement de feu va venir sur une génération tortue et perverse. Si les Écritures disent que le jugement de feu vient, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux croire que ce sont des fables. Le jugement de feu va venir. Et si tu ne mets pas ta confiance en Dieu aujourd'hui, si tu ne te tournes pas vers Dieu, si tu ne crois pas, si tu ne saisis pas les choses que Dieu nous dit, la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui, alors le jugement, tu le verras. Le jugement de feu, il va venir. Aux Juifs, après la crucifixion de Jésus, l'apôtre Pierre pouvait dire, sauvez-vous de cette génération tortue et perverse. Comment est-ce qu'ils pouvaient se sauver de cette génération tortue et perverse? C'est une génération tortue et perverse. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération tortue et perverse. Sauvez-vous de cette génération tortue et perverse. Comment est-ce qu'on pouvait le faire? Les Juifs lui ont demandé, comment? Pierre a répondu, repentez-vous, croyez à l'évangile. Repentez-vous, croyez et soyez baptisés. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Comme Dieu pense de toi, il faut que tu sois d'accord avec Dieu. Je suis un pécheur. Reconnaître que nous sommes un pécheur. Deuxième chose, croire le salut que Dieu donne en Jésus-Christ, qui a payé à ta place, à ma place sur la croix du calvaire. Troisième chose, être baptisé. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu saisisses ces choses par la foi, que tu crois et que tu sois baptisé. Au nom du Seigneur Jésus, pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, tu seras sauvé. Jésus pouvait dire, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. C'est maintenant qu'il faut faire ces choses. C'est maintenant qu'il faut se tourner. C'est maintenant qu'est le jour du salut. Demain sera trop tard. N'attends pas à demain. Demain sera trop tard.